Le coup du chewing-gum par René Pujol. Monsieur Barbelin, fils jeune, avait 70 ans, ce qui est un fort bel âge pour un joaillier. Sa barbe, irréprochablement blanche, taillée en éventail, lui donnait l'air d'un professeur de l'ancienne époque, tout à fait honnête et conformiste. Riche, célibataire, il travaillait beaucoup pour son plaisir et un peu pour celui des autres. Ce n'était pas un mauvais patron. Il avait sous ses ordres 2 commis et 1 caissière. C'était très suffisant, car la clientèle de la maison était plus importante que nombreuse. On n'entre pas marchander un diamant rue de la Paix comme une montre bracelet sur les grands boulevards. Chapitre 1er. De riches clientes. Pour l'instant, M. Barbelin, fils jeune, surveillait de loin l'activité commerciale de M. Gagné, son premier vendeur. Et M. Gagné présentait des bagues à 2 brésiliennes qui les critiquaient avec des voix de perroquet, dans cette langue portugaise qui, le Camoens mis à part, a découragé les poètes les plus résolus. L'aînée des 2 femmes était Mme Saltazar, une cafetera que la baisse du café ne parvenait pas à ruiner, tant elle possédait 2 millions. L'autre était sa demoiselle de compagnie. Elles habitaient le Ritz et on les connaissait chez Barmelin, où elles avaient précédemment acheté 1 collier de perles et 1 bracelet d'émeraude. M. Gagné se rapprocha soudain de M. Barbelin et lui dit avec émotion « Monsieur, il manque une bague. » Les sourcils de M. Barbelin, fils jeune, se haussèrent de 5 centimètres. « Comment, il manque une bague ?»« Oui, monsieur, j'en ai présenté 4, et il n'y en a plus que 3 sur le plateau. Le brillant blanc bleu de 7 carats a disparu. » « Vous ne supposez pourtant pas que ces dames... »« Je vous répète que le brillant a disparu. Il est peut-être tombé. » D'un geste, M. Gagné désigna le tapis. « Voyez-vous-même, monsieur, que faut-il faire ?» Cela, M. Barbelin, fils jeune, ne le savait pas plus que son commis. M. Gagné était si ému que la sueur perlait sur son front et que ses mains tremblaient. C'était un garçon de 25 ans environ, très élégant, sûrement intelligent, et d'une ambition qui semblait justifiée. Il se chargeait des ventes difficiles et les réunissait presque toutes. Mme Saltazar, dont la patience n'était pas la qualité principale, se détourna brusquement. « Eh bien, vendeur !» Un salut professionnel cassa l'échine de M. Gagné. « Tout de suite, madame !» Du regard, il guettait la décision de M. Barbelin, fils jeune, mais celui-ci hésitait encore. « Allez, » dit-il enfin, « gagnez du temps, retenez-les !» M. Gagné rejoignit ses clientes et M. Barbelin, fils jeune, alla mettre la caissière au courant de la situation. La caissière jugea indispensable de prendre l'avis du second vendeur, M. Latour, qui fit aussitôt remarquer que pareille aventure ne lui était jamais arrivée. Cette observation n'était d'ailleurs d'aucune utilité. On entendit la voix aigre de la cliente. « C'est bien, je vais réfléchir. » Les 2 femmes se levaient, il fallait agir immédiatement. M. Barbelin, fils jeune, fit un pas vers elle. « Mesdames, je vous demande infiniment pardon. » Il resta quoi devant elle, qui attendait la suite. « Pardon de quoi ?» fit avec hauteur Mme Saltazar. M. Barbelin, fils jeune, chercha vainement un secours auprès de ses employés. Le regard lointain, ils paraissaient tous 3 complètement détachés des événements de ce monde. Alors M. Barbelin, fils jeune, dut s'expliquer. Il se lança dans un discours entortillé, bourré de restrictions prudentes et d'excuses obséquieuses, si bien que ses auditrices ne comprirent d'abord pas. Mais la dame de compagnie glapit tout à coup quelques mots portugais qui firent sursauter Mme Saltazar. « Quoi? Quoi? Vous osez m'accuser du vol de votre bague ?» M. Barbelin, fils jeune, protesta vivement. Il n'accusait pas. Il suggérait que, par inadvertance, peut-être, le bijou pourrait avoir glissé. Mme Saltazar avait une prodigieuse facilité d'élocution. Avec une véhémence redoutable, en 2 langues, elle accumula les protestations et les menaces, prit à témoin le ciel et l'ambassadeur du Brésil, énuméra ses ancêtres et ses amis de Paris, annonça qu'elle porterait plainte et déclara qu'elle ne quitterait la boutique qu'après avoir été fouillée de la tête aux pieds. Cette opération délicate, faite par la caissière, se déroula dans un petit salon et manqua de cordialité. Le résultat fut négatif. Le brillant blanc bleu de 7 carats n'avait été escamoté ni par Mme Saltazar, ni par sa dame de compagnie. Les 2 femmes sortirent comme des reines outragées, sous les yeux atterrés de M. Barbelin, fils jeune, et de son personnel. M. Latour fit de nouveau remarquer que pareille aventure ne lui était jamais arrivée. M. Gagné, accablé, s'épongeait le front sans songer à protester. Un client entra, M. Gagné se raidit, la vie continuait, il ne fallait pas perdre la face. Le client s'enquit d'un étui à cigarette en argent. M. Gagné, héroïque, parvint à lui en vendre un en platine. L'inspecteur chargé de l'enquête se nommait Auguste Lapp. C'était un policier de l'espèce timide. Bredouillant, reniflant, il faisait sempiternellement tourner la poignée d'un antique parapluie qu'il n'abandonnait jamais sous aucun prétexte. Il écouta longuement les dépositions successives et concordantes de M. Barbelin, fils jeune, de M. Gagné, de M. Latour et de la caissière. Puis, pour bien prouver qu'il avait compris, il conclut « Je vois ce que c'est. En somme, on vous a volé une bague. » Le joaillier contemplait le policier avec un sombre désespoir. On lui avait annoncé un des plus fins limiers de la préfecture, et il se trouvait en présence de ce petit fonctionnaire étriqué qu'un enfant de 10 ans eût sans doute berné sans la moindre difficulté. M. Auguste Lapp se promena dans le magasin, admira les vitrines, s'extasia sur la beauté des bijoux et multiplia les questions oiseuses. Il s'adressait de préférence à M. Gagné, qui l'intimidait probablement moins que les autres. En une demi-heure, le premier vendeur fut obligé de raconter 4 fois la même histoire. M. Lapp voulait surtout savoir à quel moment exactement la disparition du blanc-bleu avait été constatée. Que faisait Mme Saltazar? Elle examinait les autres bagues, monsieur. Où avait-elle les mains? Mais sur la table. Vous êtes certain de cela? Oui, enfin, je crois. Ses gestes étaient-ils normaux? M. Barbelin, fils jeune, exaspéré, intervint. Mais oui, monsieur, ses gestes étaient normaux. Elle ne jonglait pas avec les bagues. M. Auguste Lapp roula des yeux inquiets. Ne vous énervez pas, monsieur. Je ne songe pas à un numéro de jongleur. C'est plutôt de la prestidigitation. Son rire n'ayant pas d'écho, il continua. Je cherche à reconstituer la scène. Pour ne rien laisser au hasard, car je déteste le hasard dans les enquêtes. Voyons, la cliente était là. Il s'assit à la même place que Mme Saltazar. La dame de compagnie était là. Monsieur le vendeur était debout en face. Voilà le tableau, n'est-ce pas? Et après? S'exclama M. Barbelin, fils jeune. Après, reprit naïvement le policier, la bague s'est volatilisée. Reste à savoir comment. C'est ce que je vous demande, cria presque le joaillier. M. Auguste Lapp pocha la tête. « Difficile, très difficile. Je n'ai pas de chance. On me confie toujours les affaires les plus difficiles. » Il caressa le tapis de table. « La solution du problème est là. Elle ne peut pas être ailleurs. Ah, si cette table pouvait parler !» La caissière ricana assez fort pour être entendue. « Allons bon, il veut faire parler les tables. » Chapitre 2e. Une indication précieuse. M. Auguste Lapp se contenta de faire tourner plus vite la poignée de son parapluie. « Monsieur le vendeur, dit-il, réfléchissez. Rappelez-vous tous les gestes de ces dames. Évoquez surtout leurs mains. » M. Gagné, sourcils froncés, lèvres serrées, s'efforçait à revivre quelques minutes du proche passé. « Il me semble que... » hésita-t-il. « Achevez, monsieur, parlez. » « Il me semble que la dame de compagnie avait les mains sur les genoux. Indication précieuse. » s'exclama le bizarre inspecteur. Sans lâcher son parapluie, il s'agenouilla pour examiner le dessous de la table. La caissière profita de ce mouvement pour se tapoter la tempe, indiquant ainsi qu'elle avait des doutes sur l'état mental de M. Auguste Lapp. Mais le policier surgit comme un diable de sa boîte. « Eureka ! » dit-il. « Monsieur le vendeur a trouvé la clé de l'énigme. « Moi ? » s'étonna M. Gagné. « Oui, vous ? » C'est clair comme de l'eau de roche. Regardez-moi ça. » Il montrait quelque chose qu'il venait de détacher du plateau de la table, un petit tas de matière blanchâtre qui collait au doigt. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda M. Barbelin, fils jeune. « Du chewing-gum. On vous a fait le coup classique du chewing-gum. » « Qu'appelez-vous le coup classique ?» M. Auguste Lapp, exultant, frémissant, expliqua d'un trait. « Pendant que Mme Saltazar discute avec votre vendeur, la dame de compagnie fixe sournoisement son chewing-gum sous la table, comme ça. » Puis elle chipe la bague et la plaque dans le chewing-gum qui la retient et l'empêche de choir. Dès lors, vous pouvez fouiller les deux femmes, elles n'ont pas le bijou sur elles. Elles s'en vont en protestant. Un instant plus tard, un de leurs complices vient faire une emplette quelconque. Il prend la bague où elle est et l'emporte tranquillement. Le truc est bien connu. Il réussit presque toujours. Quel a été votre premier client après Mme Saltazar ? Un monsieur, dit M. Gagné. Il a acheté un étui à cigarette, en platine. Voilà. Triomphe M. Auguste Lapp. Rien ne manque à la comédie, le troisième artiste a fait son entrée. Il se frottait les mains avec vigueur, comme les sauvages de Polynésie frottent des bouts de bois pour faire du feu. M. Latour proféra sentencieusement. Depuis le début de ma carrière, jamais pareille aventure ne m'est arrivée. Mais M. Barbelin, fils jeune, recherchait avant tout les conclusions pratiques. « Comment récupérerai-je mon diamant ?»«
Jamais, »
dit placidement l'inspecteur. « Il est à Londres. » »«
À Londres. » »«
Ou à Amsterdam, quelque part. » »« Vous n'avez pas la ressource, pourtant toute platonique, d'accuser Mme Saltazar. Elle vous attaquerait en diffamation et gagnerait sûrement son procès. » Tout à coup, il changea l'expression, devint très grave, leva verticalement l'index et cligna de l'œil.
« Tout de même, »
murmura-t-il avec mystère. M. Gagné prit congé, comme d'habitude, de M. Barbelin, fils jeune, en lui souhaitant bon appétit. Puis il se dirigea vers la place des Pyramides où il prenait toujours son métro. Il s'en alla, sans oublier son précieux et ridicule parapluie. Chapitre 3e. Le timide policier. Midi. En 3 minutes, la rue de la Paix s'emplit d'agréables jeunes filles, gaies et bavardes, surgies en désordre des maisons de couture. Il atteignait la place Vendôme quand quelqu'un lui frappa doucement sur l'épaule. Il se retourna avec promptitude et se trouva en face de M. Auguste Lapp, qui lui dit en souriant « Je ne vous croyais pas si nerveux, monsieur le vendeur. »«
Vous m'avez surpris, » répondit M. Gagné. « Je ne m'attendais pas à vous rencontrer. Avez-vous du nouveau ?»
Tout en taquinant la poignée de son parapluie, l'inspecteur hocha affirmativement la tête.
« Vous avez retrouvé le voleur ?»
demanda avec intérêt M. Gagné. M. Auguste Lapp glissa son bras droit sous celui du jeune homme.
« Je vais vous raconter tout, si vous le permettez. »
M. Gagné parut un peu ennuyé.
« C'est que j'ai juste le temps d'aller déjeuner. »
Mais le policier ne lâcha pas. « Vous déjeunerez plus tard, cela n'a aucune importance. » Ils firent quelques mètres sur le trottoir qui entoure la vaste place. M. Gagné attendait le récit promis et M. Auguste Lapp n'était pas pressé de le commencer.
« Vous avez une amie charmante, » dit-il enfin.
Sans tenir compte du haut-le-corps de son compagnon, il poursuivit. « Elle s'appelle Marguerite Chardon et elle habite rue de Ranelagh.
« Comment le savez-vous ? »
interrogea M. Gagné mécontent.
« Parce que je vous ai suivi hier soir. Vous êtes allé droit chez elle.
« Et pourquoi donc m'avez-vous suivi ?»«
Parce que je m'intéresse beaucoup à la jeunesse, »
dit ironiquement l'inspecteur.
En vous quittant, j'étais allé au Ritz et à l'ambassade du Brésil.
Je voulais des renseignements sur Madame Saltazar.
Une femme délicieuse,
un peu vive et bavarde, mais charmante, grosse fortune, bijoux magnifiques. Jamais l'idée de voler un diamant n'a pu hanter cet honorable millionnaire.
Mais, objecta M. Gagné, Madame Saltazar n'est pas seule en cause.
D'accord, concéda M. Lapp. Il y a aussi sa dame de compagnie.
Mais avec votre permission, nous la laisserons hors de cause.
« Voulez-vous maintenant le compte-rendu de ma matinée ?»
M. Gagné ne sourcilla pas.
« Si vous jugez que cela m'intéressera,
beaucoup, »
répliqua M. Lapp.
« Je me suis présenté un peu tôt chez votre amie, Mme Chardon. Elle n'était pas encore habillée. J'ai fait parler la femme de chambre. Mon métier me force à des indiscrétions que je suis le premier à déplorer. J'ai su de la sorte que Mme Chardon est une veuve très coquette. Elle s'imagine que vous avez une superbe situation dans la joaillerie. Cela la flatte, et vous aussi. Vous lui avez laissé entendre qu'à la mort de M. Barbelin, fils jeune, la boutique de la rue de la Paix vous écherait en héritage. Cela est un petit mensonge dont je ne vous fais pas grief. Les mirages sont utiles, quelquefois.
Madame Chardon s'est enfin montrée à moi dans toute la splendeur d'un pyjama de soie. Mon humble personne ne lui a pas inspiré beaucoup de respect. Elle n'est devenue réellement sociable qu'en apprenant que je venais pour assurer le diamant dont vous lui aviez fait cadeau la veille. » À ces mots, M. Gagné voulut instinctivement dégager son bras. Mais malgré son apparence chétive, M. Lapp avait une poigne de fer. Il se remit à parler.
« Madame Chardon m'a montré alors un diamant bleu-blanc de 7 carats.
Je l'ai confisqué, elle a poussé des cris qui me fendaient le cœur, et quand j'ai exhibé ma carte d'inspecteur de police, elle a jugé convenable de s'évanouir, ce qui a simplifié la cérémonie des adieux. » Chapitre 4e. La fin d'une aventure. Les deux hommes, ayant accompli le tour de la place, arrivaient à hauteur du faubourg Saint-Honoré. M. Gagné était pâle comme un mort. Par contre, M. Auguste Lapp n'avait rien perdu de son calme. Nul ne pouvait supposer qu'il tenait le jeune homme à sa merci.
« Je comprends l'affaire, » dit-il.
« Vous aimez Madame Chardon. Si vous avouez votre demi-pauvreté, vous ne conserverez pas longtemps l'affection de cette personne. Elle n'est pas méchante, mais elle pense surtout à elle et ne peut pas se passer de luxe. Vous ne pouvez pas lui donner de l'argent, mais le cadeau d'un diamant est tout à fait normal s'il est fait par un joaillier. Malheureusement, vous n'avez pas réfléchi aux suites. Vous n'avez même pas songé
que si les journaux relataient le vol commis chez M. Barbelin, fils jeune, Mme Chardon pourrait avoir quelques soupçons. Vous êtes trop impulsif, monsieur le vendeur, et trop ingénieux aussi. Le coup du chewing-gum devait logiquement m'entraîner sur une fausse piste. Dès mon entrée chez votre patron, j'ai su comment le vol avait été commis. Je ne vous suspectais pas. Mais pendant que je faisais l'idiot, vous avez esquissé un petit sourire de satisfaction qui m'a mis sur mes gardes. Cela ne suffisait pas pour me convaincre de votre culpabilité. Je parlais avec insistance des mains de vos deux clientes. Vous avez fini par vous rappeler que la dame de compagnie les tenait sur ses genoux au moment de la disparition de la bague. De cette façon, vous suggériez qu'il fallait regarder sous la table. C'est ce que j'ai fait aussitôt. Vous avez été un peu plus malin qu'il ne fallait, et moi, je n'ai pas été tout à fait aussi naïf que vous le pensiez. M. Gagné écoutait avec accablement. Soudain, il bondit désespérément vers la chaussée, à la seconde où débouchait un autobus lancé à toute vitesse. Mais M. Lap ne fut pas pris au dépourvu. Appuyant de toutes ses forces sur le poignet de M. Gagné, il réussit à le retenir. Les passants ne virent rien d'insolite et le policier entraîna le jeune homme plus loin. « Vous alliez commettre une sottise, » lui dit-il d'un ton paternel. « On ne se suicide pas à 25 ans. On n'a pas le droit. J'ai un fils de votre âge. Je ne veux pas briser votre avenir. » M. Barbelin rentrera cet après-midi en possession de son blanc bleu. Il sera si heureux qu'il ne me posera pas trop de questions embarrassantes sur la façon dont j'ai retrouvé la bague. Je lui dirai que le voleur m'a échappé au dernier moment. » Pour la première fois depuis le début de l'entretien, il libéra M. Gagné de son étreinte. « Quant à vous, lui dit-il, vous oublierez ce qui s'est passé. Et vous ne reverrez jamais plus l'involontaire tentatrice, la belle Madame Chardon. Il y a rue de la paix à ce gentil midinette pour que vous en découvriez une qui acceptera de porter votre nom. » Et il termina avec un bon sourire. « Maintenant, allez déjeuner. » Ainsi s'achève le coup du chewing-gum par René Pujol.